chers amis auditeurs d'Opéra Agora, bonsoir. Nous voici réunis à nouveau pour une nouvelle émission sur le cycle Verdi. Nancy Zottier, metteur en onde, est à son poste. Quant à moi, je réunis mes souvenirs pour vous parler de Macbeth, œuvre que j'ai souvent dirigée et qui m'a toujours procuré une fascination particulière. Tant ce chef-d'œuvre est porteur d'atmosphères fantasmagoriques. Verdi s'était inspiré de Shakespeare et, délaissant les héroïnes romantiques amoureuses d'un impossible amour, comme Traviata ou Aïda, le grand compositeur s'était plongé dans le monde fantastique des sorcières, des fantômes, de la folie meurtrière au service de l'ivresse du pouvoir. Dans cette Écosse du XIe siècle, toute auréolée de brumes fantasques et d'esprits démoniaques. Il va de soi que la musique sera donc très éloignée des mélodies lumineuses et attachantes, mais au contraire, complètement descriptive d'une atmosphère d'angoisse, de suspense à mi-chemin entre le polar et le film d'horreur de notre cinéma actuel. Les quelques mélodies seront donc précédées de longs récitatifs soutenus par un orchestre beaucoup plus symphonique que d'habitude. Une palette orchestrale âpre et menaçante, encadrant duos et trios fantastiques. Un vrai bonheur pour le chef d'orchestre, toujours préoccupé par la maintenance d'un climat hitchcockien. L'action est très simple, et pour une fois, très facile à comprendre, loin des méandres psychologiques auxquels nous avait habitués Verdi. Macbeth a consulté les sorcières qui lui ont prédit son accession au trône d'Écosse. Son épouse, la terrifiante Lady Macbeth, va se charger de l'opération. Il suffira d'assassiner d'abord le roi Duncan, roi d'Écosse, puis ensuite tous les prétendants au trône. On ne peut pas plus simple. Mais Macbeth est un faible. Il aura donc sans cesse sur son dos sa terrible épouse, qui, elle, est une ambitieuse sans limite, doublée de folie sanguinaire et d'autorité tyrannique. Elle est d'ailleurs le personnage essentiel de l'opéra. Les deux meurtriers finiront dans la folie et périront ainsi que l'on prédit les sorcières, déclarant que tout ira bien pour eux jusqu'à ce que la forêt de Birnam se mettent à se mouvoir et les chasser du royaume. En l'occurrence, cette forêt, ce sera le peuple tyrannisé qui, ayant coupé des branchages et s'en servant comme des boucliers, marchera sur les deux monstres et délivreront l'Écosse de leur tyrannie. Scénario fantastique, s'il en est. Merci, Shakespeare. Verdi a composé ce chef-d'œuvre dès 1850, mais toujours insatisfait, il l'a sans cesse remanié pour aboutir en 1875 à sa forme définitive. C'est pour cela que Macbeth est considéré comme l'un des derniers opéras de Verdi, tant il a été remis sans cesse au goût de Verdi. Voici donc les différents protagonistes de cet opéra. Macbeth, grand d'Écosse, baryton. Son épouse, Lady Macbeth, soprano dramatique. Le noble Banquo, l'un des prétendants légitimes au trône, basse. Macduff, seigneur, puis victime impuissante de Macbeth, premier ténor. Et Malcolm, fils du roi Duncan, deuxième ténor. Voilà pour les principaux personnages. Il est temps maintenant d'écouter les grands moments de l'opéra. Tout d'abord, le grand air de Lady Macbeth qui, prenant connaissance de la lettre que lui a transmise son époux, échafaude son plan meurtrier. Tu es faible, Macbeth, mais moi, je vais te pousser au meurtre en appelant tous les démons de l'enfer. Écoutons Anna Netrebko. Vieni, ta fretta, viens, hâte-toi. Incroyable tonicité. Et donc, Macbeth est maintenant complètement sous la coupe de sa terrible épouse. Il sait qu'il doit assassiner le roi Duncan pour pouvoir prendre sa place. Et justement, Duncan et sa cour viendront bientôt passer la nuit au château de Macbeth. Il faut en profiter. La terrible Lady prépare le meurtre. Il faudra des complices, probablement un somnifère, un guetteur, bref, tous les ingrédients du crime parfait. Macbeth est songeur. Il ne se sent pas capable du forfait. Mais la terrible Lady réussit à le convaincre. Écoutons leur duo démoniaque. Écoutons les vrais spécialistes de cet opéra, Renato Bruzzone et Mara Zampieri. Tutto è finito, tout est fini.
Sappia la sposa mia che pronta appena la mia tazza torna, come un tocco di squilla a me. Mi si affaccia un pugnal, l'elsa me volta. Se l'arma non sei tu, ch'io ti brandisca. Mi sfuggi e pur ti vengo. Thank you.
Fatal mia donna, amore, ecco mi.
magnifique duo plein d'une atmosphère sombre à laquelle Verdi ne nous avait pas habitués. Ainsi donc, le roi Duncan a été assassiné. Maintenant, il faut feindre la surprise et même la désolation devant ce crime. Les deux époux monstrueux vont se joindre à la cohorte de l'enquête. Mais qui donc a bien pu assassiner le bon roi Duncan ? S'écrie Lady Macbeth. Les deux criminels se joignent même aux lamentations des courtisans. Mais déjà leur raison commence à vaciller sous le poids de leur crime, car il faudra maintenant éliminer tous les autres prétendants. Verdi nous offre alors un magnifique final de premier acte, avec l'un de ses chœurs d'opéra les plus fameux. Une vague vocale majestueuse, soutenue par une rythmique d'orchestre ostinato d'une grande majesté sculpturale. Prière au Dieu vengeur, grand Dieu, que ta main courroucée punisse l'assassin. L'Iratua. Écoutons le chœur et orchestre de la Scala sous la baguette du regretté, l'immense Claudio Abbado. Arrivé au deuxième acte. Le roi Duncan a été assassiné, mais il reste beaucoup de prétendants légitimes à la couronne d'Écosse. À commencer par son propre fils, Malcolm, deuxième ténor à la scène. Le noble Banquo, basse à la scène. Et Macduff, dignitaire du royaume, premier ténor à la scène. Le rideau du deuxième acte s'ouvre sur un récitatif dans lequel Macbeth confie à son épouse tous ses doutes, ses craintes de ne pouvoir maintenant accéder à la couronne suprême. Mais la terrible Lady a tôt fait de le convaincre. Non, 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 nous allons tous les assassiner. Et alors, le chemin sera libre. Commençons par Banco, qui est le plus dangereux. Il suffit de lui tendre un piège et de se faire accompagner de quelques mercenaires et le tour sera joué. C'est l'occasion pour Verdi d'écrire un second grand air pour Lady Macbeth. Un air plein de mystère et de brume maléfique pour commencer. Puis se déchaîne la furie de la folie meurtrière. Le tempo devient rapide et l'orchestre se déchaîne, entraînant Lady Macbeth dans une cavalcade violente, débordante de fureur. Écoutons cet air d'une très grande intensité dramatique. Et preuve s'il en est du génie mélodique de Verdi, même dans une ambiance mortifère. La luce langue, c'est-à-dire la lumière vacille. Écoutons Asmik Grigorian. La luce langue. Bravoure pour soprano dramatique. Bon, Maintenant, il s'agit d'assassiner Banco. Justement, celui-ci a l'imprudence de déambuler à la nuit tombée avec son jeune fils. Il faut vite envoyer des mercenaires et le traquer. Banco a un pressentiment. Il se confie à son fils. « Hâte-t-on le pas, mon fils ? J'ai un sombre pressentiment. Sortons des ténèbres de la nuit, car j'ai un triste présage. Et je suis envahi d'une funeste suspicion. » Et Verdi nous gratifie de l'un des plus beaux airs pour basse du répertoire. Écoutons le grand Nikolaï Gurov. Studia il passo, ô figlio mio. Marchons prudemment, mon fils. Magnifique. Gurov a chanté tous les grands rôles de basse du répertoire, avec un talent rare fait de puissance et de grande sobriété. Il est trop tard. Banco ne peut échapper au traquenard. Voilà donc le principal prétendant au trône éliminé. Macbeth est donc maintenant reconnu comme roi d'Écosse. On le salue comme tel et Lady Macbeth organise une grande fête pour célébrer l'événement. C'est l'occasion pour Verdi d'écrire l'un de ses fameux brindisi, c'est-à-dire un toast d'allégresse, dont le plus célèbre, bien entendu, est celui de la Traviata. Libiamo, libiamo. Un peu de musique gaie au milieu de cet opéra si sombre. Mais aussitôt, la gaieté musicale s'interrompt. Macbeth, qui commence à sombrer dans la folie, a des hallucinations. Il revoit ses crimes, entrevoit les nouveaux meurtres à venir. Le brindisi est relancé par Lady Macbeth, mais son époux, halluciné par ses crimes et son destin qui le terrifie, tombe dans un profond délire, peuplé de fantômes de ses victimes. Verdi entreprend alors un long concertato, c'est-à-dire un ensemble total de tous les personnages, des chœurs, figurants, ballets, pour initier le long final du deuxième acte. Comme le veut le concertato, c'est le moment d'une musique savante, à l'architecture très élaborée, où les différentes parties musicales s'imbriquent, s'enchevêtrent, se répondent dans un exercice polyphonique très étudié, très savant. L'orchestre établit une rythmique obstinée. Les chœurs féminins et masculins se répondent. Les protagonistes principaux s'emparent des fragments mélodiques. Macbeth délire halluciné et Lady Macbeth chapeaute le tout dans l'extrême aigu de la voix. Une pure merveille. Écoutons. Sangue a me quell'ombra chiede. Cette ombre me demande du sang. Écoutons Giuseppe Taddei et Birgit Nilsson. Deux voix irremplaçables.
Yeah!
voici donc arrivé à l'acte 3. Macbeth, devenu à moitié fou, va de nouveau consulter les sorcières dans leur grotte obscure. Celles-ci font apparaître tous les fantômes des victimes de Macbeth qui s'évanouit, hypnotisé par l'atmosphère terrifiante. Les sorcières confirment la prédiction de l'avenir. « Tu dois continuer ton chemin, Macbeth, tout ira bien. Tout ira bien pour toi, jusqu'à ce que la forêt de Birnam se meuve et vienne te pourchasser. » En l'occurrence, ce sera Malcolm, le fils du roi Duncan, qui soulèvera le peuple tyrannisé par les époux monstrueux et qui, revêtu de feuillage, les guerriers de Malcolm pourchasseront les deux criminels terrorisés, voyant ainsi la forêt fondre sur eux, ainsi que l'avaient prédit les sorcières. Pour l'instant, Macbeth se réveille et vient rendre compte à son épouse de son périple chez les sorcières et des apparitions terrifiantes de leurs victimes. Macbeth est pétrifié, mais Lady Macbeth lui redonne du courage. Tout cela n'est que mensonge. Il faut continuer, il faut assassiner le fils de Manco et Macduff et Malcolm qui se rebellent contre nous. Une fois de plus, Macbeth obéit. Et c'est un duo plein d'une sauvagerie entre les deux monstres qui peu à peu sombre dans la folie totale. Cet acte où les sorcières ont une partie vocale importante se termine donc sur ce duo entre Macbeth et son épouse. Écoutons-le, ce beau duo. « Ove sonio, où suis-je ?» par Renato Brozone et Shirley Verrett.
Selva di Birna contro te non mova.
Sigui!
Ma pur di manco apparve mia stirpe e regne.
Sogno! 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 Morti! Sterminio sul nipo rotto!
Si morte di maddo farda la notte.
Voici arrivé au quatrième et dernier acte. Le rideau s'ouvre sur une procession mortuaire, ponctuée par le glas qui résonnent dans l'air glacial. Ce sont tous les opprimés du peuple qui rendent un dernier hommage à leurs proches assassinés par Macbeth et son épouse. Car les deux, depuis qu'ils sont devenus complètement déments, n'ont pas arrêté de tuer, se trouvant même des ennemis imaginaires. C'est un cœur très différent de ce à quoi nous a habitué Verdi en matière de composition chorale. Des litanies sanglotantes accompagnées par les maigres pizzicati des cordes de l'orchestre, une harmonie volontairement pauvre, ascétique, et un rythme de marche funèbre désarticulé. Tout concorde à développer une grande tristesse, mais surtout une impuissance totale face à la tyrannie des deux monstres. Rien à voir avec le célèbre « Va pensiero plein d'espoir » de Nabucco, que tout le monde connaît bien sûr. Ici, c'est le triomphe de la désolation et du renoncement devant la tyrannie. Écoutons ce cœur « Patria oppressa », « Patrie opprimée ». Écoutons les chœurs et orchestres du Metropolitan Opera de New York. Voilà le décor planté, et il faut, curieusement, attendre presque la fin de l'opéra pour entendre enfin un air de ténor. C'est stupéfiant. Verdi, qui nous avait habitués, au contraire, à gâter les ténors dans tous ses opéras, au point que leurs airs sont les plus connus du répertoire. Eh bien, Verdi a tout misé sur le rôle de Macbeth, qui est baryton, ne l'oubliez pas. C'est unique dans la production de Verdi, et l'on comprend combien ce compositeur se fixait sur la prépondérance du personnage principal. Voilà donc Macduff, le ténor, qui a échappé au massacre, mais qui a perdu toute sa famille. Il nous conte sa peine et ne se console pas d'avoir été inefficace et de ne pas avoir pu arrêter le tyran. C'est un air très intéressant, mais d'une veine peu publique, comparé aux grands airs de ténor de Haïda, Rigoletto, Le Trouvère. On retrouve ici une composition volontairement de second ordre pour un personnage de second ordre, comme dans les opéras Simon Boccanegra ou même Nabucco, où les ténors sont au second plan. Écoutons le génial Placido Domingo. « Oh, fili miei, oh, mes pauvres enfants !» C'est un air de vaincu. Donc, pas d'accent triomphal, pas de gloire militaire, juste la colère inefficace envers le tyran. Évidemment, tout cela est supérieurement composé par Verdi et supérieurement chanté par Placido. Et nous arrivons au dénouement. Macbeth et son épouse sont maintenant complètement déments. Le mal les a envahis, eux qui en ont tellement fait. Lady Macbeth sombre maintenant dans le somnambulisme. Et bien sûr, Verdi compose un grand air de somnambulisme à la manière d'un Donizetti avec la pauvre Lucia di Lammermoor. Une musique sublime, accompagnée par les cordes de l'orchestre en sourdine. Tout est mystérieux, tout est endormi, mais le sang est partout dans le souvenir de Lady Macbeth. Elle relate à son médecin et sa dame de compagnie, deux petits rôles de l'opéra. Elle relate toute sa carrière de meurtrière. C'est étonnant même de voir tant de sang autour d'elle, tout ce sang innocent qu'elle a répandu. Et pendant ce temps, la forêt de Birnam se met en mouvement. L'armée de Malcolm arrive abritée derrière les feuillages. Et bientôt, les deux époux criminels seront à leur tour condamnés. En écoutant cet air du somnambulisme, Nancy et moi vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel Opéragora. Écoutons Shirley Verrett délirer en grimpant tout de même jusqu'au contre-ré bémol, c'est-à-dire au-dessus du contrut, d'une difficulté terrifiante. Bonsoir.
di che parlava nel sonno suo.
Ridere no, non debbo ad uom che viva.
Perché sfrega l'amore.